L'agriculture est un domaine en permanente transition et nous vivons dans un territoire riche en initiatives agricoles et alimentaires.
C'est pourquoi Radio Pays d'Hérault, en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault, a rencontré des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons.
Ils nous ont parlé de leur quotidien, de leurs pratiques et de leurs difficultés, mais aussi de leur fierté et de leur passion d'exercer ce métier.
Découvrez-les à travers ces portraits.
Les produits que je produis, le premier consommateur, c'est moi. C'est moi, c'est mes enfants, c'est mes parents, c'est ma famille, quoi. Donc, bon, ben voilà, on veut porter du soin à, on veut porter du soin à ça. Et après, bon, ben, les produits, ils sont destinés ben, à tout le monde. Et on a envie de leur présenter des choses qui soient bonnes et qui soient saines. Je m'appelle David Ferrando, je suis un Vendémianais. J'ai fait une boucle qui m'a conduit jusqu'à Paris et puis je suis revenu à Vendémiaire avec l'intention de m'installer sur une exploitation agricole que je voulais alternative. Dans le sens où je ne me voyais pas faire une monoculture, j'avais envie d'aller un petit peu au bout de la transformation des produits. Tout ce qui concerne la vente directe, c'est quelque chose qui me parlait et puis je voulais continuer à avoir cette pratique que j'avais eue précédemment, à savoir l'accueil du public, l'éducation à l'environnement et l'animation de groupes, en quelque sorte.
Alors, vous êtes un agriculteur au sens large du terme. Vous produisez quoi et vous cultivez quoi?
De ce point de vue, c'est pas très original. Je cultive de la vigne avec un peu de raisin de cuve et du raisin de table. Et je cultive des oliviers, qui est un peu mon cœur de métier, on va dire. Et puis, j'ai aussi des figuiers, deux petits vergers de figuiers qui m'amusent beaucoup, quelques grenades et des coings. On est dans les cultures méditerranéennes, au sens agricole, mais pas que. Quelque part, c'est aussi un patrimoine, et moi je m'appuie beaucoup là-dessus pour nourrir les sujets des balades et des animations que je propose.
Décrivez-moi un peu votre
Alors,
exploitation.
C'est une petite exploitation, dans le sens où, voilà, on pourrait dire à taille humaine, hein. Une des choses qui me tenait aussi à cœur, c'était de pouvoir maîtriser la chaîne du début à la fin, c'est-à-dire de pouvoir assurer de la taille à la récolte, de la récolte à la transformation, de la transformation à la mise en bouteille, de la mise en bouteille à la vente. Et donc, bon, mais ça occupe pas mal. Donc, du coup, aujourd'hui, en gros, c'est, allez, on va dire 5 hectares de vignes, 7 hectares d'oliviers, et après, un petit verger de figuiers, de l'arboriculture sur un demi-hectare supplémentaire, quoi.
La vigne, bon, on est un peu en monoculture ici, hein, c'est beaucoup de vignes et beaucoup de façons différentes de la cultiver. Certains, on dit même, la font pisser. Quel est votre regard sur justement la culture de la vigne aujourd'hui et comment elle évolue?
Alors, la culture de la vigne, moi, on est à Vendémiaire, la vallée de l'Hérault. Historiquement, c'est un bassin très important pour la culture du raisin de table. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu, avec notamment la quasi-disparition de certains cépages. Et je pense en particulier bon, le chasselas, mais surtout un cépage qui était vraiment très présent à Vendémiaire, qui a une importance énorme, c'est le cervan. Et donc ça, c'est un raisin tardif qui se conserve très bien, à la fois sur la souche et puis quand on l'a cueilli. Bon, mon père, il avait une vieille vigne de cervan, j'ai tenu à la conserver, et puis j'en ai replanté. En définitive, on est un peu en décalage, hein, mais c'est un raisin qui a sa place, quoi. Et c'est marrant de voir que chaque année, ben, il y a des gens qui m'appellent à la période du cervan, c'est-à-dire à la fin septembre, pour me demander s'il y a des cervans cette année, et ils viennent chercher leur cagette de cervans qui vont conserver une partie de l'hiver.
Et c'est les joies aussi de la vente directe, ça.
Oui, c'est les joies de la vente directe, ça donne... Moi, ça me plaît parce que quelque part, je dis que ça donne du sens à ce que je fais. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des gens qui viennent chercher des produits là, chez moi, bon, déjà, c'est valorisant parce que a priori, c'est qu'ils les apprécient. Et puis, il y a une finalité, quoi. Donc, les gens, ils repartent avec ce produit-là. Le produit, il a une histoire. On peut la leur raconter. On échange. Et on n'est pas dans quelque chose d'impersonnel comme la production de raisins. Bon, on est une grosse région viticole avec, ben, faut le dire, une forme d'industrialisation dans laquelle, personnellement, moi, je ne me retrouve pas.
C'est une exploitation qui t'est arrivée de famille ou...
Alors, ouais, tout le monde travaillait dans les vignes un peu. Hein. Et donc, c'était des exploitations familiales, des petites exploitations familiales. Mes grands-parents, du côté paternel, ils sont arrivés d'Espagne, ils ont été ouvriers agricoles et après, ils ont pu acheter des petites terres. Et puis, progressivement, bah, ils avaient leur boulot et puis ils avaient acheté des vignes. Quoi, et c'était une réussite pour eux. Donc, mon père, lui, il a pu s'installer après ça. Il a fait une carrière de viticulteur. La grande aventure des caves coopératives, quoi, qui a été quelque chose de riche, d'étonnant, quoi. Et puis, donc, quand il a pris sa retraite, bon, moi, à ce moment-là, je faisais un peu autre chose. Et il a continué à travailler un petit peu après. On a gardé des terres. Et puis après, il m'a transmis ce qu'il avait gardé. Donc, moi, il y a un certain nombre de choses que j'ai gardées en l'état et beaucoup de choses que j'ai transformées pour essayer de structurer l'exploitation dont j'avais envie. Produire sainement, pour moi, c'est d'abord être au plus près de la culture, quoi. Et être au plus près de la culture, observer, voir ce qui se passe et intervenir en fonction de ça. Pas de manière systématique, mais de pouvoir raisonner les choses, les réfléchir et les mettre en place, quoi.
La plante, elle vit dans la terre, il faut aimer la terre aussi.
Ouais, il faut aimer la terre, il faut aimer le sol et s'en occuper. Le sol, la terre, en fait, de toute façon, c'est ce qui nous nourrit. Sans ça, on n'est rien. Donc, si on n'en prend pas un minimum soin...
On a l'impression qu'il y a une agriculture qui a complètement oublié que les plantes poussent dans la terre.
Ben oui, parce qu'on a acquis des techniques qui sont capables de faire passer la terre au second plan, même de s'en passer. Donc du coup, voilà, il y a une révolution chimique, technique, etc., qui a permis de transformer l'agriculture, de nourrir les gens, etc. Mais là, on en voit maintenant les limites. Quelque part, c'est la terre, hein, qui nous rappelle à notre petite dimension. Et maintenant, ben, on est obligé de s'adapter parce que ça ne fonctionne plus.
De s'adapter, est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière? À quel moment, d'après toi, il y a eu ce déclic là de productiviste? Que c'est les lobbies chimiques, les lobbies des semenciers? C'est qui a fait en sorte que, tout d'un coup, les pratiques agricoles ont changé, mais pas dans le bon sens, en tout cas pour la qualité du produit?
Non, elles n'ont pas changé dans le bon sens. Après, bon, ça a été... Elles n'ont pas changé dans le bon sens, oui et non. Parce qu'il faut regarder les choses largement. Hein. Bon, la révolution industrielle, c'est dans l'agriculture, c'est après la guerre, avec la mécanisation et puis après avec l'utilisation des engrais chimiques, l'utilisation après des intrants, enfin des produits de synthèse. Et puis le système coopératif qui petit à petit a quelque part coincé les gens dans un système. Et quand on y est dans ce système, c'est compliqué de se mettre sur le bord de la route, quoi. Parce que le système coopératif, pour qu'il soit rémunérateur, il était basé sur la production de volume. Et si vous ne faites pas de volume, c'est compliqué parce que les factures, elles arrivent quand même et il faut assurer le quotidien, quoi. Donc il y a un système, voilà, qui s'est mis en place, qui a été pas dominant, mais écrasant. Qui a pas laissé vraiment de place pour... Qui a laissé aucune place pour autre chose.
Hein. Mais qui a changé aussi la nature des agriculteurs, parce qu'ils faisaient leur vin, et tout d'un coup, on leur dit « cultivez le raisin, on s'occupe de faire le vin ». Et ouais. Que du coup, ils sont devenus des viticulteurs et plus des vignerons.
Exactement. Et ça a été un petit drame, même si, quelque part, ils y ont gagné en confort, parce que, bon, voilà, l'exigence de travail n'était pas la même. Ils ont eu accès à un outil collectif, la coopérative, niveau d'équipement, de matériel auquel ils ne pouvaient pas souvent accéder en étant un individuel. Et ça, c'est une première chose. Après, ils ont eu des revenus fixes, un système de vente collectivisé, donc détaché de tout ça. Mais au fur et à mesure, le revers de la médaille, ça a été que les gens se sont éloignés du produit jusqu'à quasiment plus savoir le faire. Pour la petite anecdote, donc moi, quand je suis revenu avec ce projet d'installation, là, c'était en 2006, par là, 2005-2006. Donc j'avais rencontré le directeur de la cave coopérative à l'époque. Là, donc les caves coopératives dans les villages se sont regroupées pour faire des plus grosses structures et essayer de faire des économies d'échelle. Et donc du coup, la cave de Vendémiaire a été absorbée par quelque chose qui s'appelle Clocher Terroir, une grosse structure qui fonctionne très bien. Et donc le le directeur m'avait reçu, on parlait, donc moi j'y faisais part de mes envies, de mes rêves, de mes fantaisies, de mes utopies aussi. Et puis, lui, je pense qu'il était beaucoup plus pragmatique que moi. De par le poste qu'il occupait, sûrement qu'il valait mieux. Et à un moment, dans la conversation, il m'a dit « Mais de toute façon, je vous arrête, vous êtes des producteurs de raisins. Et le reste, c'est nous. » Alors là, je suis resté un peu sans voix, quelques secondes. Et puis, et j'ai compris que si on voulait faire autrement, il fallait faire 3 pas de recul et puis faire autrement.
Mais faire autrement aujourd'hui, David Ferrando, dont vous avez de la vigne raisin de table, donc, et vous avez aussi de la vigne que vous mettez à la cave coopérative.
Ouais.
Donc vous n'êtes pas vigneron, vous non plus.
Non. Donc j'amène du raisin à la cave coopérative. Après, il faut être
très clair. Et qui se mélange avec le reste.
Qui se mélange avec le reste. Il faut être très clair. Ça me permet d'avoir... quelque chose sur lequel je peux compter un peu. Un petit fixe, voilà. Les bonnes années, si je ne suis pas impacté par le mildiou ou le gel. Bon, le gel, on l'est tous. Bon, et on a eu une année de mildiou catastrophique. Mais voilà, bon, ça, c'est cette partie-là. Alors, quand je parle de mon exploitation, je suis très conscient que la cave, elle m'amène sa part. Mais voilà, ce n'est pas la partie sur laquelle j'ai le plus envie d'investir. Et... quelque part, je m'épanouis davantage sur l'autre partie de mon exploitation.
Mais ce raisin, quand même, vous le cultivez de façon saine.
Oui.
Pour le mélanger avec des gens, peut-être, qui le cultivent de façon...
Après, bon...
À la sortie, ça fait du vin... C'est pas du vin bio, la sortie, hein.
Non, mais il faut souligner que depuis quelques années, là, 3 ou 4 ans, sous la pression sociétale, les caves coopératives ont demandé aux coopérateurs, sur le principe du volontariat, de s'engager dans une amélioration environnementale, quelque chose qui s'appelle le HVE. Ouais. Voilà. Mais c'est un premier pas. Déjà, on en a parlé. Donc, en parlant, ça veut dire qu'on le met sur la table et on considère que c'est une vraie préoccupation. Deux, on demande à des gens de s'engager. Quand on s'engage, on a quand même un contrôle. Donc, on a un cahier de suivi de culture qu'on présente. On a un cahier des charges un petit peu quand même à respecter. Et puis aussi, on s'aperçoit que la réglementation, elle est évolutive. Et petit à petit, elle devient un petit peu plus contraignante, notamment par rapport à l'utilisation de l'azote. Tout à l'heure, on a parlé des engrais chimiques et l'utilisation de l'azote à tout va, qui n'est pas bonne pour les sols. Ben voilà, donc là, la réglementation HVE est en train de devenir un peu plus ambitieuse.
Ça veut dire quoi que ces vignes ici à Vendémiaire de David Ferrando, il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de tout ça? Ou un peu?
Ce qu'il faut dire quand même, c'est que souvent, il y a une confusion de la part du public, des gens. Quand on vous demande, vous travaillez, vous êtes en bio, alors si vous dites non, les gens vous répondent, alors vous traitez. Oui, on traite, mais les gens souvent oublient qu'en bio, il faut traiter aussi. Et parfois plus, parce que bon, en bio, on peut utiliser que des produits, on va dire, de contact. Et du coup, ils sont soumis au lessivage des pluies, à ces choses-là, donc il faut les renouveler. Et après, moi, sur le raisin de table, par exemple, ça fait une bonne dizaine d'années, je suis un peu idiot, je l'ai conduit en protocole bio. C'est-à-dire que j'utilise du soufre, du cuivre, de l'écorce d'orange, qui est un produit qui est sympa et qui fonctionne pas mal. Et par contre, jusqu'à maintenant, je n'étais pas dans la certification. Donc, j'ai la satisfaction de travailler, me semble-t-il, correctement. Mais derrière, je ne peux pas le faire valoir. C'est un peu long, c'est un peu compliqué. Après, voilà, ce qui est compliqué, en tout cas pour moi, c'est la démarche administrative. Qui est un peu lourde et qui le deviennent de plus en plus. Hein. Globalement, les démarches administratives en agriculture, vous avez sûrement entendu parler, elles deviennent de plus en plus lourdes. Et là, concernant le bio, il faut faire un dossier, il faut avoir une compta, il faut être carré sur dire la paperasse. Quoi. Mais bon, c'est pas insurmontable et à un moment, il faut le faire. Quoi.
Bon, des vignes qui donnent du raisin qu'on amène à la copée, des vignes qui donnent du raisin de table qu'on vend déjà en direct, on m'avait dit.
Ouais, on vend en direct.
Sur quoi? Sur les marchés? Sur le bord
non,
de la route
plutôt, alors moi je fais partie d'une boutique de producteurs, donc ça c'est une belle aventure. C'est donc la boutique de producteurs qui se trouve à Clermont-l'Hérault, ça s'appelle Paysans Producteurs. Donc on est une vingtaine, un peu plus, en association, et chaque jour dans cette boutique, c'est un de nous qui la tenons, qui sommes derrière la caisse et qui vendons le fromage, les légumes, les produits des copains et les produits de tout le monde. Donc mes produits, ils sont là-bas. Dans le choix que j'avais fait concernant le raisin de table, c'était d'avoir des petites vignes avec un panel de cépages un peu différenciés et notamment différenciés par rapport aux dates de récolte, quoi, de mûrissement. Donc du coup, ça me permet d'avoir du raisin en gros de la mi-août jusqu'à la fin octobre, avec le cervane dont on parlait tout à l'heure. Et du coup, le raisin, il est là-bas. Et après, il y a des gens qui ont pris l'habitude de venir chez moi. Après, je sers quelques coopératives d'achat, une AMAP, un petit circuit, quoi.
Bon, on laisse tomber la vigne, puis on va parler des oliviers.
Et parlons des oliviers.
Parce que là, apparemment, j'ai compris que c'était un peu le coup de cœur, les oliviers.
Ouais,
et là, c'est nouveau, votre père n'avait pas d'oliviers.
Non, alors il pouvait y avoir un olivier ou deux sur le bord des... sur les rases, comme on dit, sur les bords des vignes, mais non, il n'y avait pas d'oliviers, donc j'ai planté des oliviers. J'ai aussi travaillé avec un ami, quelqu'un qui est devenu un ami, qui était enseignant, qui a, pour occuper sa retraite, il a acheté de la garrigue. Il a défriché la garrigue et il a planté un verger d'oliviers, une oliveraie fabuleuse. Sur une grande superficie, une oliveraie magnifique. Comme moi j'étais aussi dans les oliviers, on a sympathisé et puis il était à la retraite, donc moi, il n'était pas sur place, moi j'avais du matériel, donc on a beaucoup travaillé ensemble, jusqu'à ce qu'ils disent « Bon écoute, maintenant moi j'ai vieilli, si tu veux prendre une partie du verger en fermage, ça me ferait plaisir. » Donc moi ça m'allait bien et lui ça lui allait bien aussi, donc j'ai tout ça pour dire que j'ai une part de mon verger que j'ai pas en propriété.
Combien d'oliviers en tout ?
2000 en nombre d'arbres sur 7 hectares à peu près.
Quel type de variété ?
Ouais, y a pas mal de variétés. Je suis plutôt orienté sur les olives à huile, même si j'ai de la luc et de la picholine qui me permet de faire de l'olive de table. Mais je suis plutôt sur la fabrication de l'huile. Et donc là, les variétés phares, c'est la Glando, la Bouteillan, l'olivière, la picholine, l'arbequine et puis la verdale de l'Hérault.
Alors, vous produisez du raisin, vous ne faites pas le vin. Vous produisez des olives, vous faites l'huile ?
Oui. Donc là, c'est aussi un des choix que j'ai fait. C'est que j'ai investi à la fois affectivement et financièrement aussi, plutôt dans l'olive. Et j'ai pu m'équiper en 2011 d'un moulin à huile. Je peux assurer, je peux maîtriser la chaîne du début à la fin. Et ça, c'était un souhait. Et donc, j'ai pu le réaliser. C'est un grand motif de satisfaction. Et du coup, le mois de novembre, il est super actif. Mais c'est ce que je voulais faire et je suis content de pouvoir le faire.
Alors, il y a quelques moulins à huile privés ici dans la région. Est-ce que vous fabriquez de l'huile pour d'autres ?
Ouais, c'est pas mon cœur de métier. Mais bon, la capacité de mon moulin, elle est supérieure à la capacité de ramassage que j'ai. Pour se donner les moyens de faire de l'huile de qualité, il faut qu'on raccourcisse au maximum le délai entre le moment où on ramasse et le moment où on presse. Et on broie, on triture, on malaxe. Et du coup, moi, mon rythme de travail, c'est de cueillir un jour, donc un jour de cueillette, et le lendemain, de transformer. Quand tout va bien, sur la journée de cueillette, on ramasse une tonne d'olives. Et sur une journée de travail au moulin, on peut transformer 2,5 tonnes. Donc du coup, au départ, il y a des gens qui sont venus me demander « Tiens, est-ce que je pourrais t'amener des olives ?» J'ai dit oui. Ça, à la fois, c'était intéressant pour moi aussi parce que ça permet de payer l'investissement. Et puis, souvent, ça a été quand même des belles rencontres. Donc je vais dire que j'ai quelques amis clients qui viennent depuis très longtemps et donc je fais l'huile pour eux. Mais ce n'est pas quelque chose que je veux développer. J'ai mon équilibre qui va pas mal.
Alors, plusieurs variétés d'olives pour faire de l'huile, ça veut dire des huiles mélangées avec toutes ces variétés ou alors il y a un peu comme pour le vin, des cépages ?
Alors, l'intérêt d'avoir le moulin, c'est de pouvoir déjà travailler un peu comme on veut. C'est-à-dire en termes de choisir le moment où on va ramasser. On sait que derrière, on peut transformer tout de suite. Et puis aussi, de pouvoir transformer les variétés qu'on a envie. Si je ramasse que 500 kilos d'une variété, chez moi, je peux la transformer. Peut-être que dans un moulin plus gros, il n'y en aurait pas assez. Donc ça, c'est une possibilité. Donc ce que j'essaye de faire, c'est de, dans tous les cas, de travailler des huiles monovariétales. Donc une seule variété. Après, ça peut, selon l'année, selon tout un tas de choses, on peut faire des assemblages. Mais en tout cas, dans ma gamme, j'ai des huiles monovariétales. Et dans tous les cas, au préalable, toutes les olives sont extraites de manière monovariétale, quoi. Je récolte variété par variété. Après, on a ça dans les cuves. Et puis, on voit comment on va le...
Alors, les principes de l'agriculture biologique, ça marche aussi pour les olives. Donc, comment vous cultivez? Quels sont vos types de pratiques là-dessus?
Oui, bon, le problème, c'est la mouche. Hein, le problème, c'est la mouche. Donc, la mouche, en fait, elle commence à être active là, à la fin du mois de juin, à partir du moment où les olives font 1 cm. Et donc là, bon, ben la première chose, c'est d'être, je disais tout à l'heure, hein, d'être présent sur les vergers. Donc la première chose, c'est qu'on a des pièges. On a des pièges, en général, c'est une plaque rectangulaire jaune sur laquelle on met de la glu et sur laquelle on met une capsule qui diffuse des phéromones. Et les phéromones, donc spéciales pour la mouche de l'olive. Du coup, c'est plutôt les mâles qui sont attirés par la phéromone, puisqu'elle reproduit, voilà, c'est à des fins de reproduction. Et donc, du coup, en passant, moi je passe tous les jours sur les vergers, je vais dans les pièges et j'enlève les mouches quand il y en a. Et j'ai une grille et je compte le nombre de mouches que j'enlève. Et donc, ça permet de savoir un petit peu l'importance des populations de mouches. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être au clair sur les températures, la météo, les températures. Quand on est en juillet, en août, qu'on est en période de forte chaleur, il ne pleut pas souvent en juillet, août, bon, voilà, on est en déficit d'eau. Donc dans ces périodes-là, la mouche, même si elle est présente dans le verger, elle n'est pas active. Et même si elle est active, quand on a des températures vraiment très hautes, au-delà de 35 degrés, la plupart du temps, les œufs, ils vont avorter, ils ne seront pas viables. Ça ne sert à rien d'intervenir lorsqu'on sait que le risque est moindre, quoi. Donc c'est un petit peu joué, mais je pense que ça vaut le coup quand même, parce que ça permet de limiter les interventions. Les interventions, c'est de toute façon, c'est des produits, soit du chimique, soit du pas chimique, mais c'est des produits quand même. Les produits, il a fallu les fabriquer d'une manière ou d'une autre. Donc quand on fabrique des produits, ben, il y a aussi de la consommation d'énergie, etc. Donc c'est pas très bon pour le climat dans tous les cas. Et qui dit passage de produits, dit passage de tracteur. Et le tracteur, c'est du pétrole. Donc voilà, mon point de vue, c'est qu'au plus on réduit les interventions, au mieux c'est. Maintenant, on est quand même tenu, après c'est les banquiers qui vous rappellent à l'ordre, on est quand même tenu d'avoir un résultat, quoi. Si vous ne pouvez pas vous permettre de faire plusieurs saisons sans récolte, sinon l'aventure, elle s'arrête.
Donc on traite. Est-ce que ce traitement passerait dans la moulinette de l'agriculture biologique,
non,
par exemple?
Enfin, là, j'ai
on m'a dit qu'on pouvait traiter avec de l'argile,
oui,
par exemple.
Oui, c'est ça. Tout à l'heure, on a parlé de clients qui venaient au moulin. L'année dernière, année très compliquée pour les olives. Très peu d'olives, été sec, tout ça. Moi, j'avais très peu d'olives, j'étais pas très réjouissant. Donc, pas de mouches dans les pièges. Donc, je fais l'impasse sur les traitements. Par contre, bon, en général, au mois de septembre, il se remet à pleuvoir. Et là, la mouche, comme par hasard, elle se réveille. Je me retrouve avec des gros, gros, gros dégâts. Et j'ai un ami qui travaille pas très loin, là, qui, lui, est en bio, et donc qui est quelqu'un de rigoureux, qui, l'année dernière, a fait l'effort, il avait davantage d'olives, il a fait l'effort de faire les traitements qu'il fallait à l'argile, et il m'a amené des olives qui étaient parfaitement saines. Le travail qu'il a fait, il a été 100% efficace. En parallèle, il y a d'autres olives qui sont rentrées au moulin, qui avaient pu être traitées de manière conventionnelle, hein, au chimique, et qui n'étaient pas propres. Pour moi, ça a été un déclic quand même. Ça fait un moment que je fais un va-et-vient entre la volonté de m'engager dans l'agriculture biologique et puis le recul parce que j'ai peur. Donc bon, je fais des traitements à l'argile, mais je me gardais la possibilité de faire des interventions chimiques, quoi. Donc là maintenant, suite à l'année dernière, là, j'ai fait la démarche. Je me suis engagé dans l'agriculture biologique et maintenant, je ne traiterai plus qu'à l'argile. Après, il faut être rigoureux. Et par exemple, tout à l'heure, on en parlait un petit peu. L'ami en question, l'année dernière, il a fait 7 passages d'argile. Donc, il a fait 7 traitements, ce qui est pas rien. Mais bon, voilà, à un moment, il faut faire des choix et puis En l'occurrence, ça sera celui-là.
Si dans cette région, on a fait de la vigne et de l'olivier, c'est parce que c'était une région sèche. Et maintenant, on voit de plus en plus d'oliveraies arrosées. Vous arrosez ?
Alors, j'ai une parcelle. Sur 7 hectares, là, il y a une parcelle, un hectare, qui est arrosable. Quand il y a des olives, et si l'année est vraiment sèche, enfin, j'utilise l'arrosage. Moi, je suis très partagé par rapport à l'utilisation de l'eau en agriculture, en viticulture notamment, en agriculture aussi. Dans tous les cas, je me suis rendu compte que l'apport d'eau un peu artificielle en oléiculture, il permet de maintenir un peu l'arbre, hein, mais c'est pas la solution miracle, hein, ça remplace pas une pluie du tout. Mais bon, ça permet quand même de maintenir un petit peu l'état des arbres. Après, bon, moi je suis très partagé parce que je me dis que la ressource en eau, elle est tellement précieuse que est-ce qu'on doit l'utiliser de manière très 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 importante pour des productions qui pourraient quand même aboutir sans eau? Mais moi, personnellement, j'ai pas envie d'avoir recours à l'eau pour faire du vin. Après, il y a le regard de la société, la pression sociétale qui nous pousse aussi à modifier nos pratiques. Et quelque part, moi, j'y souscris. Je crois qu'il faut qu'on aille vers ça. Mais il faut que les gens aussi comprennent ce qu'est la réalité des agriculteurs et de l'agriculture. C'est-à-dire que produire d'une manière saine, produire d'une manière raisonnée, ça veut dire souvent produire moins. Et ça veut dire produire à des coûts, même si on va à la fin produire moins, on a quand même des coûts qui vont être un peu plus élevés. Donc ça veut dire que produire, ça a un coût. Et il faut que les gens soient prêts d'abord comprendre ça, à connaître le prix des produits agricoles, et puis à être prêts à y consacrer ce prix-là. Le budget d'une famille moyenne, il a évolué. La part dévolue à l'alimentation, elle a baissé. Et donc, du coup, voilà, il y a aussi cette demande d'avoir des produits agricoles à prix contenu. Donc là aussi, il y a quelque chose qui se mord la queue. Il y a une quadrature du cercle. Parce que je ne connais pas un producteur qui vous dira « Moi, je m'en fous de produire mal. » Tout le monde a envie de mieux produire. Mais il faut qu'à la fin, on puisse être sur un équilibre économique qui soit viable. Pour revenir en arrière, c'est compliqué. Et juste un petit tacle. Par exemple, en tant qu'agriculteur, les villages, là, bon, moi je suis à Vendémiens, c'est les villages vignerons. C'est les anciens villages vignerons, qui n'ont plus grand-chose de vignerons, si ce n'est dans le patrimoine bâti, oublié un peu. Donc les profils de ces villages, ils ont énormément changé. Ils ont doublé, triplé. Le Vendémiens, voilà, la population, elle a triplé. Pour autant, quand on était à 500 habitants, il y avait une boulangerie, et la boulangerie, elle fonctionnait très bien. Maintenant, on est à plus de 1000 habitants, mais la boulangerie, elle a fermé. Les gens, ils vont acheter le pain à 10 km parce qu'ils en ont un gratuit, je crois, s'ils en achètent trois. Ça, c'est la première chose. Donc, et je disais, en tant qu'agriculteur, quand on n'est pas nombreux maintenant, il doit y avoir quinzaine d'agriculteurs. Si, quand vous avez le malheur de passer avec un tracteur dans le village, et si vous avez accroché derrière votre tracteur un appareil qui sert à traiter, on vous regarde de travers. Hein. Par contre, vous pouvez passer aussi dans des rues où il y a de l'eau qui coule. Et alors, qu'est-ce que c'est cette eau ? Et en fait, c'est les gens qui vident leur piscine. Donc là, tout d'un coup, il y a combien, 30 ou je ne sais pas combien, 50 mètres cubes qui sont jetés dans la rue, quoi. Et ces gens-là sont capables de vous reprocher des choses, peut-être à juste titre. C'est compliqué de regarder nous ce qui va, chez nous ce qui ne va pas, et c'est plus facile d'aller voir chez le voisin et de lui dire que ce qu'il fait, ce n'est pas bien, quoi. Et bon, voilà. Alors, tout ça, ce n'est pas pour exonérer qui que ce soit, hein, et y compris, et surtout pas moi, mais c'est bien d'élargir la réflexion et de regarder les choses dans un contexte un peu plus large, quoi.
C'était David Ferrando, un portrait d'agriculteur réalisé par Radio Pays d'Hérault en partenariat avec le Pays Cœur d'Hérault. Tous les podcasts sur rphfm.org.